Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. On refait le match en effet 18h30, 20h chaque samedi. Bienveillance, info, débat, échange avec vous tous sur Twitter et le compte @RTLFoot. Avec moi ce soir, le chef de la rubrique foot de RTL au planning 7 jours sur 7. Mais chut, faut pas le dire trop fort. Philippe Sorfaux, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Sébastien Tarago pour la chaîne L'Équipe, spécialiste autoproclamé du Clermont Foot. Ça tombe bien entre le PSG et Clermont. Ça tourne à la démonstration 4-0 pour les Parisiens. Sébastien, bonsoir.
Bonsoir.
Notre Rémi Bricane, nous, l'homme orchestre de RTL, chronique foot, chronique curiosité, les grosses têtes, écrivains capables de jouer à tous les postes dans On fait le match, Florian Gazan, bonsoir.
Bonsoir Christian.
Qui fait le parquet aussi.
Spécialiste des affaires institutionnelles dans On fait le match, mis en concurrence avec François Manardeau qui nous a rendu c'est une première visite samedi dernier, ça tombe bien, on reviendra sur les sanctions de Nice-Marseille. David Aiello, bonsoir.
Bonsoir, j'ai entendu ça. Et comme dans tous les grands clubs, il y a une mise en concurrence,
les éléments. Ah, t'as pas dit qu'il y avait des remplaçants, c'est bien.
Donc parlez un peu plus fort, David. Ah non, bah, on la refera tout à l'heure. Voilà, on va demander à nos amis de la réalisation de régler le problème et on va la refaire derrière. Enfin, pour le Figaro, il suit notamment l'équipe de France. Ça tombe bien, on fera le bilan de la séquence internationale. Baptiste Després, bonsoir.
Bonsoir Christian.
Auteur de ce livre que je montre aux nombreuses caméras dont fait le match, car l'émission est filmée, n'est-ce pas messieurs? L'émission est filmée sur RTL.fr et sur l'application RTL. Du mondial à l'euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous manqué aux éditions Hugo Sport. 17,95 €. David Aiello, le retour avec un nouveau micro tout beau, tout chaud.
Bonsoir, est-ce que tu as un
micro? Ah, formidable. C'est formidable. Donc vous savez, je répète, on vous met en concurrence avec François Manardeau.
Je disais que c'était comme dans tous les grands clubs européens.
Exactement.
On double les postes, quoi.
La concurrence est biaisée manifestement parce que la qualité du matériel est à la même.
On ne donne pas les bonnes chaussures.
Mais attention parce qu'il y a des postes plus faibles que d'autres, même au PSG.
On fait marcher la rotation. Voilà.
Il va appeler son agent.
À 20h, n'oubliez pas. 20h, 23h, Eric Silvestro, Xavier Demergue, Giovanni Castaldi, Baptiste Durieux et à Monaco, Michael Lefebvre pour un très alléchant Monaco-Marseille, l'avant-match, le match et l'après-match. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison, à tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
C'est parti pour On fait le match avec Philippe Sanfourche, Baptiste Després, David Aiello, Florian Gazan et Sébastien Tarago. Je salue également Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Avec tous les messages évidemment de tous ceux qui nous écoutent, à retrouver ces messages sur le compte RTL Foot. Ah non, 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 non. Ne nous envoyez pas cette musique-là. Ce n'est pas la bonne musique. Je veux la vraie musique d'entrée des joueurs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Voilà. Alors, Phil Collins à la trappe et DJ Snake qui maintenant accueille les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est la polémique, la dernière polémique, la polémique du jour, messieurs. Nicolas Georgerot, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors vous êtes au Parc des Princes, où le PSG mène tranquillement 4-0 face à Clermont.
À 12 minutes de la fin.
Oui. À combien ?
12 minutes de la fin.
12 minutes de la fin. Et si je fais cette petite ouverture musicale, c'est que c'est une histoire de tradition et qui enflamme les réseaux sociaux, Nicolas Georgerot.
Oui, alors c'est vrai que le Woodside High Bull de Phil Collins est présent pour l'entrée des joueurs sur le terrain depuis le début des années 90. En rencontrant pas mal de supporters avant match, c'est quelque chose qui a du mal à passer parce qu'on considère que ça fait partie de la tradition, mais c'est pas totalement effacé par exemple aujourd'hui, donc où ça a été après le PSG Strasbourg vraiment entériné qu'il y ait un changement. En fait le Phil Collins s'est joué juste au moment où les joueurs entrent pour l'échauffement, donc il était 16h29, et en revanche pour l'entrée sur le terrain juste avant le coup d'envoi, c'est effectivement un morceau de DJ Snake officiellement pour le Paris Saint-Germain, de dire de mettre en valeur des artistes franciliens. Alors c'est un petit peu de mal à passer, mais en fait le Woodside High Bull ne va pas complètement disparaître, il sera présent dans l'avant-match d'une façon ou d'une autre.
Alors on va revenir sur le match bien évidemment. Messieurs, c'est quoi? C'est une polémique qu'on surdimensionne, qu'on gonfle, ou c'est un coup de canif dans les traditions, Florian Gazan?
Déjà, il faut se rappeler qu'avant Phil Collins, il y avait Michel Fugain. Et quand on a supprimé Michel Fugain pour mettre Phil Collins, sans doute il y a eu des supporters qui ont râlé.
Fugain ?
Ah oui, attention mesdames et messieurs, il rentrait là-dessus avant.
Vous savez, quand même peu de gens qui se sont plaints à ce moment-là. Hein.
Bah oui, mais bon, ça veut dire que la tradition déjà avait été changée, ça évolue. Moi, je pars du principe que voilà, à chaque fois que qu'on change un truc, de toute façon, il y a des gens pour râler. C'est vrai que c'est comme le jump de Van Halen à Marseille. Ce Phil Collins, c'est voilà, c'est lié au Paris Saint-Germain. Mais bon, on peut aussi changer et puis dans 20... voilà,
c'était ça,
c'était ça.
Il est rentré là-dessus, bah.
Et là, on comprend.
À l'époque de Broly.
Mais il y avait les Pet Shop Boys aussi.
Ouais, alors, les Pet Shop, non, les Pet Shop Boys, c'est un hymne, mais c'est pas une musique pour rentrer. Les Pet Shop Boys, c'était à la fin du match quand ils mettaient les Pet Shop Boys.
Le Go West.
Oui, le Go West, c'était à la fin du match du Paris Saint-Germain.
Bon. Alors, tu caniques dans les traditions ou pas, Sébastien Tarrago?
Sur ces sujets-là, je me méfie de moi-même parce que oui, moi, je trouve ça dommage. Mais on est peut-être des vieux cons. Et
vous savez que sur les réseaux sociaux, on parle de cancel culture. Hein,
oui, non, mais moi, je me fiche des réseaux sociaux. Et ça ne m'intéresse pas. Mais je trouve, effectivement, pour avoir été énormément au Parc des Princes, que c'était un moment important. Alors, je ne vais pas le comparer au You Will Never Walk Alone de Liverpool. Je ne vais pas le comparer, comparer à ça. Mais pour moi, c'était quelque chose qui marquait le début des matchs, juste avant. C'était important. Bon, voilà, écoutez, ils veulent DJ Snake, c'est ce grand homme, c'est très bien. Il sera content et les joueurs Neymar, Mbappé et compagnie seront contents parce que c'est leur ami.
Il le justifie par donc là, c'est l'attachement francilien, donc DJ Snake est parisien.
Ouais.
Donc l'idée, voilà,
on a le droit, en revanche, de dire que ça, c'est une vaste fumisterie.
D'accord.
Il se trouve que ce monsieur DJ Snake, il se trouve qu'il est vraiment très célèbre dans le monde entier. Et donc, on peut aussi l'envisager comme une volonté d'avoir un rayonnement international, le PSG développe de plus en plus avec succès.
Et c'est un vrai supporter de Paris Saint-Germain.
Il bénéficie de nombreux privilèges.
Il faisait partie des rares Happy Few à être présent au Camp Nou, par exemple, en Ligue des Champions, sur le 4-1, en février dernier. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs vidéos qui tournaient où il se montrait assez fier d'être présent comme ça au plus proche de l'équipe. Et certains supporters trouvaient un peu bizarre de pas avoir l'autorisation d'y aller, mais que certaines personnes comme ça pouvaient être présentes dans les tribunes du Camp Nou.
C'était même scandaleux.
Moi, c'est pas ma question.
C'est notre réponse.
Oui, mais moi, je viens avec mes questions aussi. Quand Florian Gazan dit que c'est pas la cancel culture, c'est quand même la cancel tradition. Je veux dire, on efface tout là. On efface de la mémoire des supporters du Paris Saint-Germain.
Ah, ça y est.
Philippe Sainfourche.
Moi, ce qui me dérange dans cette petite polémique naissante, il y en a une tous les 15 jours, c'est que sous-jacent, il y a toujours le côté le Qatar, ils veulent tout effacer, le passé, plus rien n'existe. Moi, je trouve plus important, par exemple, quand les Qataris sont arrivés et qu'on pouvait envisager par exemple un déménagement du Paris Saint-Germain au Stade de France.
L'ont envisagé.
Ce qui était logique d'ailleurs à envisager.
Ils ont envisagé un déménagement.
Mais pas longtemps.
Mais ils l'ont envisagé.
Pas longtemps. Je trouve ça plus important de transiger pour la continuité au Parc des Princes et d'engager ensuite, soit dit en passant, plus de 150 millions d'euros de travaux pour en faire un stade ultra moderne et de conserver le stade qui est l'essence même du club et de sa progression dans l'histoire. Donc ces histoires de musique, effectivement, tous autour de la table là, je pense qu'on a tous largement plus de 40 balais. Il y a des gamins qui ont 15 ans aujourd'hui, 20 ans au stade, ils ont peut-être pas envie d'écouter Phil Collins. Moi ça me dérange pas.
Tu penses qu'ils ont envie d'écouter DJ Snake?
Si c'était pas You Will Never Walk, je veux dire, on n'est pas sur un truc qui représente l'histoire du foot.
L'histoire du PSG.
Il y a quelques années, ils ont mis Nirvana.
Philippe, les traditionnalistes te diront que le camp des loges ne s'appelle plus le camp des loges. Le maillot, l'équisson du maillot du PSG a été transformé.
Mais celui du Real aussi.
Et la Juve a changé de maillot et de logo aussi.
Le générique dont on fait le match, c'est le même que quand l'émission a commencé?
À vérifier.
Je ne sais pas, les amis. Vous me regardez, Christian.
Je crois qu'à l'origine, c'était du Phil Collins en plus, ou pas.
Donc il n'y a pas de débat alors.
Si, bien sûr, il y a un débat, puisqu'on en parle. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt en fait, de la chose.
Baptiste Després.
Je ne vois pas du tout l'intérêt de dire oui, on va mettre DJ Snake, je vais y arriver. Je ne vois pas l'intérêt.
C'est la modernité. C'est
mais la modernité de quoi en fait?
Parce que Phil Collins, déjà, cette chanson n'était pas tellement emballante. Moi, je dis musicalement, ça me faisait rien.
Honnêtement, émotionnellement, quand tu es au Parc des Princes, tu attendais où cette chanson?
Oui, parce qu'émotionnellement, elle est rattachée à toute une période.
Mais enfin, Snake, c'est pas très emballant.
Est-ce que les gens sont pleins là-dessus de la chanson? Non,
mais comme le disait Philippe, pour moi, il y a une question de transition. Voilà, c'est Phil Collins, c'était les années 90. Bah, on est en 2010.
Par contre, en revanche, Philippe parlait des jeunes et que oui, sans doute, tu préfères DJ Snake ou pour ceux qui le connaissent. Mais
ils le connaissent, les jeunes.
Il y en a beaucoup qui le connaissent, mais tout le monde n'apprécie pas quand même. Je trouve que c'est pas un argument parce que c'est aussi un lien et un trait d'union entre les générations et que effectivement cette petite musique
qui n'est pas la plus grande musique de l'histoire, eh ben, constituer un lien entre les différentes générations de supporters du Paris Saint-Germain.
Ouais, bon, premier débat. Premier débat, première réaction sur le compte @RTLFoot avec Baptiste Durieux.
Du coup, beaucoup de supporters sont unanimes aujourd'hui. Quelques messages en rafale. On n'efface pas Phil Collins, merci. Autre message, enlevez Phil Collins à l'entrée des joueurs au Parc des Princes. C'est enlever une partie de l'histoire du club. Remettez Phil Collins sérieusement. Message de Romain qui était au stade. Il nous dit, au stade, j'ai eu cette impression bizarre. On dirait une musique d'un spectacle pyrotechnique qui ne vient jamais. Choisir de changer Phil Collins, c'est déjà une erreur. Et la chanson choisie en est une deuxième. Autre message également, la musique d'entrée des joueurs fait partie de l'identité d'un club, d'un stade. Jump au Vélodrome, Phil Collins au Parc, ça fait partie du patrimoine. Quel intérêt, quel sens de le détruire. Et puis un autre message aussi avec une autre polémique peut-être. Message de Alexis nous dit, la seule musique qu'il faut changer au Parc des Princes, c'est l'immonde Bruno Mars après chaque but, mais certainement pas Phil Collins.
Bon, ça engage évidemment. C'est une question de goût en vérité. Hein. Ouais, mais c'est vrai que oui. Si on m'enlève moi le Pierre Bachelet les corons à Lens,
il est en deuxième mi-temps. Hein. C'est pas.
Non, puis le Pierre Bachelet il est rattaché régionalement au stade.
Et puis les corons, il est chanté par les supporters. Là, Phil Collins, personne chante Phil Collins.
On les a tous les ans sur les maillots. Et ça, je trouve que le maillot, c'est vraiment l'identité d'un club, c'est son ADN. Les supporters du PSG sont toujours très très attentifs quand arrive la fin de la saison et qu'on commence à avoir les premières fuites.
C'est foutu, là. Le maillot du PSG ressemble pas au maillot.
Bah alors après, ça dépend desquels vous parlez, parce que maintenant il y a toujours le maillot et il y en a quatre. Donc forcément, par définition, il y en a forcément quelques-uns qui sortent du cadre. Et les fameux maillots Sœurs, les maillots Ligue des Champions, tout ça, ça peut évoluer. Mais le maillot domicile, il doit, par exemple, cette année là, celui qu'on voit ce soir, pour moi, il est problématique. Parce que sur le devant,
il a pas la bande verticale.
Il a pas la bande verticale avec le code couleur bleu, blanc, rouge, blanc, bleu. C'est ça le Hechter du Paris Saint-Germain. Après, vous le déclinez comme vous voulez, mais ça doit rester le maillot tel qu'il doit être décliné. Bon, là, cette année, il n'est pas vilain, ce maillot, mais c'est pas...
C'est un rappel d'un...
Moi, ça me dérange plus, ça.
Oui, mais comme il en faut tous les ans, parce qu'il faut en vendre, il faut les changer tous les ans.
Tu le changes, mais tu gardes le code couleur.
Donc, on revient à des considérations marketing à tout point de vue. Voilà.
Bah, oui.
Les considérations marketing, quand on change de nom le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, considération marketing, quand on met DJ Snack...
Snack, c'est à midi.
On voit son sourire, il a fait exprès.
On peut dire qu'en antenne, vous l'avez appelé Dr Snack.
Dr Snack, ouais.
Franchement. Mais c'était du second degré, on le sait.
C'était une boutade.
Et DJ Dre.
Je vous ai fait perdre le fil. Sinon, il y a un match de foot. Ouais. Mais alors là, ils se trimballent, les Parisiens.
Deux minutes dans le temps réglementaire, 4-0. Et la première apparition de Nuno Mendes qui est entré pour les 5 dernières minutes. Il a frappé un corner à l'instant, c'était beaucoup trop fort. C'est arrivé au second poteau.
On a les buteurs, Nicolas.
Évidemment, avec le doublé de Herrera en première période. 20e, 31e. Mbappé à la 55e. Gueye à la 65e. Un mot sur Mbappé qui. C'est pas anodin et c'est pas neutre comme dirait l'autre quand il se fait siffler lors de la composition d'équipe, mais qui ensuite dès le coup d'envoi se fait acclamer sur chaque accélération, et lorsqu'il a fêté son but, il n'y avait absolument aucun sifflet, contrairement à ce qu'il y a eu avant match. Ça méritait d'être précisé.
Alors je vais plomber un peu l'ambiance, mais je me dois quand même également, puisqu'on parlait des traditions et de l'histoire du Paris Saint-Germain, rappeler que Jean-Paul Belmondo, qui nous a quitté cette semaine, a été à l'initiative avec une bande de copains de la création du Paris Saint-Germain, années 70, 73 très précisément, avec Daniel Hechter, avec Francis Borrelli.
Avec Jackie Bloch.
Jackie Bloch, c'est un footballeur parisien, Île-de-France, hein, et qui a fait se rencontrer Hechter, Borrelli, un peu plus tard, Cahuzac,
Charles Tallard,
Bernard Brochand également, et Jean-Paul Belmondo adorait le foot également. C'est les gardiens de but de l'équipe des Polymusclés. Et son idole, c'était René Vignal.
Absolument.
Alors, en termes de cascade, il était fort également, René Vignal, parce que c'était vraiment un goal. Je sais pas, c'était pas le goal volant qu'il avait un surnom. C'était, René Vignal avait ce surnom-là.
Avec la casquette.
Avec la casquette. Et Belmondo, dans les buts, avec les Polymusclés, qui réunissaient également des anciennes stars du foot, Juste Fontaine, etc. Eh bien, il adorait plonger. Il disait d'ailleurs, c'était un peu comme au cinéma, quoi. Voilà. Donc, voilà. je voulais vous parler un petit peu de Jean-Paul Belmondo, sa disparition, la connexion avec le Paris Saint-Germain.
Il y a une banderole d'ailleurs,
une belle banderole.
Nicolas,
itinéraire d'un fondateur du Paris Saint-Germain. Merci Bébel. Et il y a eu une minute d'applaudissement dans l'avant-match, ainsi qu'une minute d'applaudissement pour Jean-Pierre Adams, lui aussi décédé, ancien joueur du club.
Voilà. On n'oublie pas également Jean-Pierre Adams, tout de même, hein, qui était dans un état végétatif depuis 1982 suite à une erreur médicale. Jean-Pierre Adams, c'était la garde noire. Est-ce qu'on aurait le droit de dire la garde noire maintenant? Ça, c'est pas sûr. Avec Marius Trésor en équipe de France. Et bien là, il s'est véritablement endormi, Jean-Pierre Adams, après un état végétatif de très très long. Et on pense évidemment à sa famille et notamment à son épouse, Madame Bernadette Adams. Je voudrais également avoir une pensée, nous tous, pour Gérard Farizon, légende verte de l'AS Saint-Étienne, disparu également cette semaine. Et puis pour l'ami également, confrère Xavier Rivoire, journaliste à l'équipe France Football et qui était également notre correspondant ici à RTL lorsqu'il était en Angleterre. 18h48, une page de publicité. On va parler encore un peu du match, hein, PSG Clermont, et on va se projeter sur la Ligue des Champions avec quand même pas mal d'interrogations concernant ceux qui reviennent d'Amérique du Sud, ceux qui sont encore blessés et ceux qui sont ou qui relèvent de blessures. À tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match, les dernières secondes du temps additionnel. PSG Clermont, Nicolas Georgiou.
Vous arrivez au bon moment. C'est la fin de cette partie. 4-0, la victoire du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, 5-5 depuis le début de la saison. Un doublé de Herrera en première période. Un but de Mbappé à la 55e. Gueye à la 65e. On a vu les premières avec le Paris Saint-Germain de Donnarumma ou encore de Nuno Mendes. Et donc 4-0. Clermont n'a pas fermé le jeu. A essayé, mais était privé de son buteur devant Mohamed Bayo. Laissé au repos. Et donc 4-0 pour ce PSG avant d'affronter Bruges en Ligue des Champions dans 4 jours.
Et on va en parler assez longuement dans On fait le match. Merci beaucoup Nicolas Georgiou. C'est 30 fois le budget, hein, le budget du PSG contre Clermont qui l'emporte ce soir. 4-0, victoire indiscutable, sans pas mal de stars. Est-ce que c'est une victoire? Là, je lance comme cela à la volée cette question. Est-ce que c'est une victoire qui est rassurante en vue justement du coup d'envoi de la Ligue des Champions, messieurs? Car cette équipe est désossée. Il n'y a pas les Sud-Américains. Il n'y a pas Sergio Ramos qui a rechuté une nouvelle blessure. Kurzawa adducteur, Verratti genou, etc., etc.
Vous avez répondu à la question, en fait, à travers votre question. La réponse est là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui à quoi va ressembler le Paris Saint-Germain tel qu'on l'attend, tel qu'on l'espère en Ligue des Champions, avec les meilleurs joueurs, avec Verratti, avec Mbappé qu'on voit lui depuis le début de saison, mais avec Neymar, avec Messi.
Il manque une demi-équipe là.
Oui, donc il y a un moment, personne ne peut dire à quoi peut ressembler le Paris Saint-Germain dans son expression collective dans les semaines qui viennent.
Ce qui est rassurant,
eux-mêmes ne le savent pas, je pense.
Ce qui est rassurant en revanche, ça veut dire que quand même Pochettino peut faire énormément tourner pour préserver les joueurs pour les gros matchs de Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'il peut mettre comme 4-0 à Clermont avec Herrera, Gueye et Danilo. Donc ça c'est quand même intéressant. Ça veut
tous
dire
internationaux, hein.
Oui,
non, mais rappelons-le.
Non, oui, mais je veux dire par là que
non, mais on a l'impression que c'est les joueurs de Lorient.
Oui, mais enfin, c'est Danilo, c'est un peu un cran en dessous de Messi, enfin,
champion d'Europe.
Voilà. Non, mais ça veut dire que quand même le PSG a de la marge et qu'il va pouvoir vraiment gérer l'effectif en Ligue 1. Ça, c'est,
mais je sais pas si c'est rassurant parce qu'en fait, autour de la table, je sais pas, mais personne n'était inquiet parce que quand on voit le début de saison du Paris Saint-Germain, alors comparé à l'année dernière, ils perdent pas de points en route, ils font 5-5 en championnat, c'est très bien. Mais Sébastien l'a dit, en fait, la saison elle commence mercredi à Bruges parce que toutes les stars reviennent, Neymar, Messi et d'autres, voir comment Mbappé va jouer avec ces deux-là. L'expression collective du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est pas une feuille blanche, mais en tout cas on sait rien du PSG version 2021-2022. On attend de voir, mais le premier match à Bruges va donner une petite
éclaircie. C'est la série match amicaux, là, en fait.
Bah, c'est un peu ça, ce que là,
je ne le prépare pas.
Ouais, mais attention.
Mais c'est sérieux.
Le Paris Saint-Germain a perdu. Voilà. Le Paris Saint-Germain a perdu le titre la saison passée.
Exactement.
C'est pas neutre. C'était important pour eux. C'est important pour eux d'aller gagner le prochain. Et on peut constater qu'il y a de la sérénité, en tout cas.
Oui, mais comme un match amico, dites-vous, mais avec quel style de préparation, quel style de mise en place, puisqu'il manque une demi-douzaine de titulaires, Philippe Sanforge?
Alors oui, si vous parlez des automatismes, effectivement, pour l'instant, l'association Neymar, Mbappé...
Messi,
on va voir, on va juger sur pièce.
Avec quel schéma de jeu?
Voilà.
Bon, et quid de Di Maria?
Il démarre pas non plus à Manchester City ou au Bayern. Donc on peut se dire que ça peut commencer déjà dans des conditions un peu confortables. Mais on s'aperçoit que pour Lionel Messi, finalement, c'était peut-être le choix idéal, le Paris Saint-Germain, parce que ça fait plusieurs années qu'on imaginait Lionel Messi ailleurs qu'à Barcelone, et que le choix, par exemple, de retrouver Guardiola à City et de se confronter tous les trois jours à l'intensité de la Première Ligue, ça pouvait poser question quand même sur le choix de carrière pour terminer pour Messi. Là, il arrive dans un fauteuil. C'est-à-dire qu'il arrive, il a même pas encore commencé à jouer. Enfin, il a joué 10 minutes à Reims, mais c'était pas vraiment des débuts. On a l'impression que le PSG est déjà champion d'automne. Enfin, lui, il a maintenant la sélection et la Ligue des Champions avec le PSG. Tout le reste, ce sera des matchs peu accessoires.
Avouons-le, le championnat de France, c'est, on passe ça, ça nous intéresse moins. Pour le PSG. Je veux dire, c'est pas un objectif. En tout cas,
ça peut être problématique parce que, comme le disait Philippe, on a l'impression que c'est déjà plié. Mais au mois de février, ça va vraiment être plié. Donc, sur la gestion qu'il peut y avoir, c'est déjà arrivé dans l'histoire du Paris Saint-Germain récemment, que de se retrouver mi-février, mi-mars avec le championnat en moins, moi, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Je pense que pour la dynamique du groupe, c'est bien d'avoir cette tension un petit peu du championnat qui persiste.
Et on va parler d'ailleurs, après les informations de 19h, du sondage Odoxa, RTL et Kenéo, qui, avec donc une Français interrogée, qui voit le Paris Saint-Germain remporter la Ligue des Champions au la main, hein, cette fois-ci.
Et il y a quand même un débat passionnant qui va vite venir, c'est comment jouera le Paris Saint-Germain dans les gros matchs de Ligue des Champions. Parce qu'on parle des trois de devant, mais j'ai l'impression qu'on oublie vite un garçon comme Angel Di Maria, qui est quand même un très grand joueur aussi, et qu'on n'écarte pas comme ça. Et d'ailleurs, si on l'écarte, ça posera problème.
Et qui a montré d'ailleurs beaucoup de choses sur ses entrées en jeu ou lorsqu'il a été titulaire, parce que je pense qu'il est pleinement conscient qu'il est évidemment le quatrième sur la liste et qu'il a intérêt à être extrêmement performant pour tirer son
Et donc, est-ce que Pochettino jouera avec les quatre de devant ou avec seulement trois? C'est quand même intéressant.
Il y a ça aussi, excusez-moi Christian, et puis il y a aussi la question du gardien de but qui va se poser mercredi à Bruges.
Donnarumma titulaire ce soir.
C'était l'excuse toute trouvée pour Pochettino parce que Navas est rentré tardivement de sélection. Donc il fait jouer Donnarumma aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va être mercredi? Est-ce que il y en a un qui va jouer la Ligue 1, l'autre la Ligue des Champions? Ça peut aussi avoir des répercussions sur la saison.
Ce sont des questions qu'on va se poser, auxquelles vous allez tenter de répondre évidemment avec les auditeurs de RTL, émission interactive grâce au compte Twitter @RTLFoot. Rejoignez-nous sur l'application et sur le site, l'émission est filmée. Quelle composition d'équipe? Dans quel état d'esprit, effectivement, Mbappé qui n'a pas prolongé est-il? Est-ce que ça ne peut pas accroître certaines tensions internes, externes? La guerre des Gaules entre Donnarumma et Navas. Et puis le sondage avec nos amis de Doxa et de Kenéo pour les chances du Paris Saint-Germain, mais pas seulement du Paris Saint-Germain, de Lille également en Ligue des Champions.
RTL, on refait le match. Christian Olivier.
On fait le match, l'actualité est dense, les débats sont nombreux en compagnie de Philippe Sanfourche, Baptiste Després, David Aiello, Florian Gazan et Sébastien Tarago. Vos messages sur le compte @RTLFoot bien évidemment. Quelques résultats, le PSG a battu Clermont 4-0 au doublé d'Herrera, Mbappé et Gueye pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Vous avez suivi ces dernières secondes en compagnie de Nicolas Georgerot il y a quelques instants. L'adversaire du Paris Saint-Germain, ce sera mercredi, ce sera Bruges sur la pelouse de Wargame, actuellement 34 minutes de jeu, le score est de 0-0. Lille jouera, vous le savez, dès mardi contre les Allemands de Wolfsburg. Eh bien, Wolfsburg l'a emporté sur la pelouse de Furs, qui est une localité qui se trouve près de Nuremberg. Le score 2-0 pour les prochains adversaires du LOSC.
Ils sont leaders du championnat, leader, pour l'instant.
Et puis cet après-midi, merci Florian Gazan, Manchester United a battu Newcastle sur le score de 4-1 avec un doublé, on en parlera peut-être dans les tirs au but. Un doublé de Cristiano Ronaldo pour son retour à Manchester. Un but de Bruno Fernandes, un but de Lingard également. On va continuer de débattre sur le Paris Saint-Germain. Rassurez-vous, on va parler également des chances de Lille concernant la prochaine Ligue des Champions. Et on retrouve l'ami Émile Leclerc, directeur des études chez Odoxa. Bonsoir Émile.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Avec un sondage RTL Kenéo, réalisé par Odoxa, vous êtes le directeur des études, et qui donne le Paris Saint-Germain vraiment favori de la toute prochaine Ligue des Champions. En clair, le PSG est condamné à la gagner cette compétition, Émile Leclerc.
C'est un peu ça, ouais. Le PSG est ultra, voire même unique favori quand on interroge les Français et les amateurs de football. Ils citent à 39 et 48%. On mesure régulièrement les favoris de la Ligue des Champions et jamais le PSG n'a atteint un tel niveau. Généralement, c'est plutôt 20 à 25% qu'ils le citent. Donc c'est vraiment très large. Ils devancent d'une trentaine de points le Real, le Barça, le Bayern, City et United, qui sont évidemment des gros clubs et des gros concurrents pour le PSG cette saison.
Si vous voulez réagir, messieurs, c'est un état de fait de toutes les façons.
Les gens ont la mémoire courte quand même.
C'est-à-dire ?
Le match aller-retour contre City, c'est pas si loin que ça. Et on a vu ce qui séparait encore le PSG.
Là, t'as
une
équipe t'as
qui a une densité de joueurs équivalente. Alors peut-être avec moins de stars. Effectivement, la composante Lionel Messi, elle n'est pas anodine. Mais on a pu voir sur ces deux rencontres quand même que Manchester City avait une petite longueur d'avance encore du fait d'un collectif huilé, organisé, façonné depuis plusieurs années et qui aujourd'hui est à maturité.
Les Français,
il manque encore quelque chose au Paris Saint-Germain pour être largement favori de la Ligue
des Champions. Les Français n'ont pas la mémoire courte.
Non, pas la mémoire courte. Et puis j'irai plus loin que Philippe. Il y a à la fois l'histoire contre Manchester City, mais de façon générale, Chelsea aussi qui a gagné la Ligue des Champions, qui n'avait pas d'attaquant. Alors aujourd'hui, ils ont un effectif extraordinaire. Mais l'année dernière, avec Tourelle, c'était pas non plus, il n'y avait pas pléthore de joueurs offensifs. Et notamment dans. Non, mais il y avait du matos. Mais ce que je veux dire,
vous
c'est que.
Vous n'avez dépensé que 180 millions.
Non, mais bien entendu, c'était pas les pauvres non plus. C'était pas les pauvres de l'Europe, on est d'accord.
D'ailleurs, t'as raison, aujourd'hui, les mêmes sont remplaçants.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es champion d'Europe avec Havertz attaquant. Donc oui, les Français ont un peu mis la mémoire courte.
C'est l'effet Messi.
David Ayello.
L'effet Messi, il est déjà en train de se matérialiser au niveau économique. Il y a les ventes de maillots, il y a les nouveaux sponsors qui sont déjà dans les tuyaux avec des tarifs qui sont de x2, x3, x4. Bon, bah voilà, au niveau de l'opinion publique, parce que là, on a deux chiffres, on a l'opinion public et on a les amateurs de foot, on voit bien quand même que cet effet il est marquant. Enfin, nous on est là, on analyse, etc. Ouais, mais évidemment pour le grand public, ils réagissent pas comme nous.
Les amateurs de foot me déçoivent quand même, parce que franchement, c'est vrai. Bon, voilà, il y a Messi, mais en fait, pour l'instant, on sait pas comment ça va jouer. On a quand même des équipes avec des collectifs beaucoup plus avancés que le Paris Saint-Germain, City, Chelsea. Quand on voit aussi la force de frappe de United cette année, ça va être assez. Ils ont des effectifs quand même extrêmement pléthoriques. Donc, oui, Paris, mais enfin. Pas mieux que les autres. Quoi.
Mais attendez, vous n'êtes pas à l'abri d'une autre surprise. C'est-à-dire que dans cette enquête, Émile Leclerc est sauf erreur de ma part, si le Paris Saint-Germain ne remporte pas la Ligue des Champions, les Français considéreront que c'est un énorme échec.
Ouais, à 82%, ils nous disent ça, hein, que ce serait un échec. Alors, je vous entendais parler de Messi, mais il n'y a pas eu que Messi. Il y a eu un recrutement qui a été galactique entre Ramos. Alors, on verra ce que ça donne sur Ramos, mais il y a eu Hakimi, il y a eu Wijnaldum. Il y a un recrutement galactique et qui a imprimé quelque chose dans l'opinion. Et finalement, on se dit que le PSG n'aura pas le droit à l'erreur cette saison et devra quasiment gagner la Ligue des Champions. Il y a une raison supplémentaire à ça, c'est que les amateurs de foot, quand on les interroge, ils sont convaincus d'une chose, c'est que le PSG ne disposera jamais d'un effectif aussi fort que cette année. Parce que l'année prochaine, probablement Mbappé partira, Messi, Ramos seront vieillissants. Donc c'est un peu, d'une certaine manière, l'année ou jamais. Il y a une attente qui a été créée par ce recrutement et il faudra pas doucher les espoirs des Français qui attendent une Ligue des Champions depuis quasiment 30 ans bientôt.
Réaction ?
Bah, c'est tout sauf l'histoire du sport. C'est-à-dire que, souvenez-vous, pour l'instant, il n'y a que Marseille qui l'a remporté en France, cette Ligue des Champions, et ils ne l'ont pas du tout remporté l'année où on les attendait. C'était pas l'équipe, ils n'avaient pas l'équipe la plus forte quand ils l'ont remporté. Et cet exemple-là, il vaut pour bon nombre d'équipes. On a vécu un été où l'équipe de France a aligné les joueurs vedettes et où on ne parlait que de ce trio magique Mbappé, Benzema, Griezmann, et puis on s'est planté dans le mur comme jamais. C'est l'histoire, c'est ce qui rend le sport magique.
Mais en même temps, moi, je trouve ça terrible. Et ce sport,
Sébastien Tarragon.
Parce que le football est l'un des sports où déjà à l'intérieur même d'un match, c'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne. C'est-à-dire que vous voyez tout un tas de matchs toute la saison où la meilleure équipe perd le match. On l'a vu par exemple avec les PSG Bayern Munich la saison passée en Ligue des Champions. Donc c'est la magie de ce sport-là. En général, l'équipe qui joue le mieux dans les autres sports gagne quand même.
Mais moi je trouve ça terrible pour le Paris Saint-Germain, parce qu'ils vont se retrouver avec, effectivement, le mot était employé, avec cette pression, cette obligation de remporter la Ligue des Champions, alors qu'on sait que je parle même pas de la finale, c'est sur un match, sur deux matchs, ça va se jouer à rien. Et remporter le championnat, la coupe, etc., c'est accessoire, on considère que c'est acquis. Moi je trouve ça terrible pour ce projet-là, que ça repose uniquement là-dessus. Mais non, mais ça se résume à ça.
C'est la meilleure équipe d'un point de vue effectif.
Non, mais je te dis pas qu'ils sont à plein. Je te dis juste que pour moi, je trouve ça délicat pour un.
Ah oui, bon, enfin, s'ils ne sont pas capables d'assumer la pression qu'on leur met pour gagner la Ligue des Champions, je veux dire, c'est la meilleure équipe.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'eux-mêmes se la créent aussi.
Alors bon, vous voulez chercher la petite bête ? On va chercher la petite bête. Pas de souci. Les amateurs de football, le savez-vous ou le saviez-vous, eh bien craignent les conséquences du non-transfert ou du transfert avorté de Kylian Mbappé et Émile Leclerc.
Oui, c'est ça. Ils craignent qu'il y ait un problème sur la motivation du joueur. Alors, honnêtement, quand on regarde Mbappé ses derniers matchs, on voit bien qu'il est présent. Maintenant, qu'est-ce que donneront les sifflets s'il se répète à chaque match sur son moral? Et puis, ils craignent aussi l'ambiance au sein du groupe parisien. Donc, voilà, il faut voir ce que ça donne dans les semaines à venir. Mais c'est une vraie crainte qu'il y ait un manque de cohésion dans l'équipe parisienne et que ça vienne gripper un peu cet effectif qui fait rêver. Mais vous l'avez dit, qui n'a pour l'instant jamais été aligné et donc qui n'a jamais rien montré dans les faits.
Moins Mbappé sera décidé à prolonger, est-ce que vous ne pensez pas que plus ça pourrait créer des tensions internes?
Non. Enfin si, interne si.
Oui, interne
si.
Sébastien Tarrant.
C'est quoi interne pour toi? Entre joueurs ou
avec les dirigeants, ah, avec oui, le bon. Club. Mais en revanche, on peut rassurer les Français,
oui.
Interrogés par
Odaxa surtout. Oui.
C'est que Kylian Mbappé, il sera tout autant motivé que d'habitude. Hein. Parce que lui, il ne va pas laisser une saison en route, alors qu'il est obsédé par ses buts à l'entraînement, pour faire la gueule et montrer son mécontentement. Non. Lui, là, il est là pour faire sa saison. S'il peut mettre 55 buts en Ligue 1, il les mettra. Non,
mais surtout, Sébastien, celui qui a le plus intérêt à gagner la Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé. Parce que s'il part à Madrid en ayant gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, tout le monde lui dira bon, ok, là, tu peux partir parce que de toute façon, tu es allé au bout de la mission.
Tout le monde est d'accord ?
Oui, après, sur les tensions, moi, je pense que là, effectivement, il y a encore quelques sifflets. Ça a été rappelé tout à l'heure par Nicolas. Mais dès que ça va retourner, s'ils font une bonne série en Ligue des Champions, il aura retourné le Parc des Princes.
Non, la seule crainte, et ça ne va pas intervenir tout de suite, c'est quand on va commencer à approcher de la date butoir de fin décembre et où le Paris Saint-Germain va de toute façon inévitablement revenir à l'attaque sur les histoires de prolongation, le Real va commencer à se repositionner intelligemment pour ne pas se faire doubler non plus par un éventuel autre club, parce que ça va quand même être le jeu va être ouvert totalement pour tous les clubs pour Kylian Mbappé. Alors lui, moralement parlant, il s'est engagé vis-à-vis du Real. Il n'a pas donné sa parole parce que de toute façon, il n'a pas le droit d'engager les discussions.
Et puis
tout était quand même entre
les gens. Les choses évoluent, c'est normal, c'est la vie.
Et les choses peuvent évoluer. Mais ce qui est certain, et on le voit là, ce qui s'est passé en équipe de France n'est pas anodin. Kylian Mbappé, à un moment donné, le corps, il parle aussi en fonction de comment mentalement tu es pris par ce qui t'est arrivé sur les semaines qui se sont écoulées, où il a été sous pression, pressurisé. Il a démontré sur le terrain qu'il essayait de ne pas être impacté, mais on voit qu'à un moment donné, ça a une incidence. Et je pense que si l'atmosphère commence à être viciée, parce qu'on sait que les rapports avec Leonardo, avec Nasser El Khelaïfi sont dégradés depuis des mois et de plus en plus sérieusement, ça peut avoir une incidence sur sa performance. Ce ne sera pas volontaire, ce ne sera peut-être même pas conscient, mais ça peut dégrader au quotidien son bien-être et sa manière de s'impliquer dans le collectif.
Il peut aussi être libéré, ça dépend comment il va vivre les choses profondément. C'est-à-dire que lui, à la base, il n'imaginait pas une seconde partir libre du Paris Saint-Germain. À la base, quand il a signé au Paris Saint-Germain en provenance de Monaco, il savait déjà qu'il voulait aller au Real Madrid. Et le club parisien le savait aussi. Il savait que c'était une étape dans son esprit avant d'aller au Real Madrid. D'ailleurs, il l'avait shippé, entre guillemets, au Real, qu'il le voulait déjà. Donc lui, si dans sa tête, il est libéré de cette espèce de poids qui consistait à ne pas partir libre, moi, je pense qu'il ne peut pas.
Mais est-ce que tu ne crois pas qu'il doit communiquer, Sébastien?
Si, mais il va communiquer.
Là-dessus, à l'approche, comme disait Philippe, à l'approche de la date fatidique, au mois de décembre-janvier, il faudra d'une façon ou d'une autre que le joueur communique.
Il va communiquer, mais après, ce n'est pas évident.
Non, bien entendu, ce n'est pas évident. Mais il doit communiquer.
En cours de saison, communiquer, ça me paraît impossible. Je ne le vois pas dire au mois de décembre, j'ai choisi de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain.
Et pourquoi pas?
Parce qu'il lui reste
est-ce que ça changerait
de pression? Quel est l'intérêt pour Mbappé de prolonger désormais, d'accepter une prolongation de contrat? Quel est son intérêt à lui?
Non, mais quel intérêt?
L'intérêt peut être financier.
Le seul intérêt, c'est prendre un peu d'argent quand même.
Financièrement,
non.
Mais si, parce que Paris aura pas. Paris peut largement s'aligner sur n'importe quelle proposition.
Non, le seul intérêt.
Mais je comprends pas. Zéro intérêt.
Alors, le seul intérêt, c'est qu'il a 22 ans. Il a 22 ans. La vie, sa carrière va être longue a priori et on ne sait pas ce qui peut se passer dans 4, 5, 6 ans. Est-ce qu'il va faire 10 ans au Real Madrid? Personne ne le sait, lui-même ne le sait pas. Et il se trouve que le Qatar pèse un petit peu dans le sport mondial et que ça peut être important de ne pas froisser totalement les Qataris. Voilà, c'est le seul intérêt.
J'entends ton discours, mais je pense qu'il ne pèsera pas lourd.
Ah non, mais moi non plus.
Au regard de la crainte qu'il a d'être, entre guillemets,
emprisonné.
Là, il restait un an de contrat, mais 6 mois avant la possibilité de signer libre. Et le Real est arrivé quasiment à hauteur de 200 millions d'euros et le PSG a refusé. Donc imaginez s'il prolonge, ses perspectives de départ sont quasi nulles.
Mais c'est pour ça que c'est de la faute. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui paye ses stratégies avec l'ensemble de ses joueurs depuis 10 ans.
Non, puis surtout,
il se trouve que ça tombe avec Kylian Mbappé et qu'il est quelque part presque le seul joueur capable de rivaliser avec la pression des dirigeants du Paris Saint-Germain.
Parce que quand c'était Rabiot, on pouvait le mettre avec.
Les joueurs qui vont au Paris Saint-Germain savent qu'ils n'en repartiront pas, sauf s'ils ne donnent pas satisfaction.
Enfin, ils n'en repartent pas aussi des fois parce qu'ils ont des très gros salaires.
Mais bien sûr, c'est pas la question de les plaindre, mais il se trouve que quand le Paris Saint-Germain a bloqué tous les joueurs qui voulaient partir, notamment Marco Verratti. Mmh. Et ça, les joueurs le savent. Et ça pèse énormément dans le choix de Kylian Mbappé. Sinon, il aurait prolongé. S'il était sûr de pouvoir partir en juin prochain, pour faire plaisir à tout le monde, il aurait prolongé.
Messieurs, avant de tourner une page de publicité, je voudrais quand même que Émile Leclerc nous donne les résultats concernant la qualification possible ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a un deuxième club, Lille, en Ligue des Champions. Émile Leclerc.
Ça paraît jouable selon les amateurs de football, puisque 68% d'entre eux nous disent que Lille peut se qualifier pour les huitièmes. Alors évidemment, c'est d'autres ambitions que le PSG, mais ça serait déjà une belle performance de se qualifier. On rappelle quand même que le tirage a été relativement clément pour les lois, puisqu'il n'y a pas de poids lourd européen, Salzbourg, Séville, Wolfsburg, donc c'est des beaux clubs, mais pour les amateurs de football, c'est possible que Lille se qualifie pour les huitièmes.
On a quand même le leader de la Bundesliga et le co-leader du championnat espagnol, Séville.
Ouais, ça va être compliqué quand même, surtout quand on voit Lille en ce moment.
Et Lille, on en parlera derrière une page de publicité, avec vos messages très nombreux ce soir sur le compte Twitter @RTLFoot. On parlera bien évidemment dans On fait le match jusqu'à 20h de Lille, ses chances en Ligue des Champions, de son match, pas terrible, face à Lorient, avec une belle équipe lorientaise, c'était hier soir. Match inaugural de la nouvelle journée de championnat. On parlera également des incidents et des sanctions surtout qui ont prévalu après les incidents entre Nice et Marseille. Et puis on parlera évidemment du dernier opus de Baptiste Després, notre confrère du Figaro, du Mondial à l'Euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous raté aux éditions Hugo Sport. Sans oublier les tirs au but.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
La suite d'On fait le match avec Sébastien Tarrago qui refait le match pendant la publicité. Florian également, David Aiello, Baptiste Després et Philippe Sansfourche avant l'équipe de France, avant les incidents Nice-Marseille, avant les tirs au but. Avec un nouveau concept, vous le savez, il y a le championnat des chroniqueurs. Ceux qui répondent le plus vite ont des points et ont le droit de nous payer un verre à la fin de la saison. Lille, défaite à Lorient, 2-1, c'était hier soir sur l'antenne de RTL notamment. Lille, 10e, 5 points. La Ligue des Champions démarre, on l'a dit, contre Wolfsburg. Faut-il laisser du temps au nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec qui remplace, on le sait, évidemment, l'ami Galtier.
Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça ?
Non, au contraire.
Vous sous-entendez quelque chose ?
Non, faut-il lui laisser du temps ?
Ah oui. Vous souhaitez qu'on lui laisse du temps ?
Si j'avais été méchant, je vous aurais posé la question suivante : est-ce que c'est un bon entraîneur ? Ou a-t-il le.
A-t-il les épaules
Après Bordeaux, il n'a pas franchement réussi. Mais à Guingamp, c'était la Ligue 2 où il a réussi. Est-ce qu'il a le costume pour entraîner une équipe championne de France et qui va disputer la Ligue des Champions ? C'est pas mes questions. Ce ne sont pas mes questions.
Mais il est qui il est ? Et donc, quand Lille l'a recruté, il savait qui il recrutait, avec ses qualités et ses défauts. On sait qu'il n'a pas l'envergure, a priori, pour se retrouver à la tête d'un club destiné européenne.
C'est vous qui êtes méchant.
Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, Cristiano Ronaldo, il n'y en a pas 150 non plus. Et on peut être un très bon joueur sans être Cristiano Ronaldo. C'est pareil pour les entraîneurs. Mais quand vous le recrutez, vous savez qui vous recrutez, avec quelle personnalité, quelle image, quel management. Donc je trouve ça dur, en fait, aujourd'hui, de critiquer Jocelyn Gourvennec qui est qui il est.
Non, mais au contraire, faut-il lui laisser du temps ?
Bien sûr qu'il faut lui laisser du temps, parce qu'il a une succession qui est extrêmement compliquée, dans le sens où la cohésion qu'avait réussi à créer Christophe Galtier avec son groupe était extrêmement forte, et que, notamment quand il y a eu le match entre Lille et Nice, les joueurs étaient encore... Enfin, il n'est quasiment pas parti encore du club dans leur tête.
Mais est-ce que j'ai une question pour toi. Attends. Est-ce que tu crois que si Christophe Galtier était sur le banc de touche de le grand Christophe Galtier, l'immense, entraîneur de génie, s'il était sur le banc de Lille,
aujourd'hui, est-ce que tu crois qu'ils gagneraient, qu'ils auraient plus de points?
Oui, pas forcément.
Bah, moi, je pense pas.
Forcément.
Moi, je pense que oui.
Bah, moi, non.
Oui, mais
pas forcément.
Je pense. Non, parce que je suis d'accord avec Sébastien. C'est typiquement l'équipe qui est championne de France contre toute attente. Derrière, ils perdent très peu de joueurs. Ça, c'est une chance quand même à l'intersaison. Mais il y a un relâchement.
Honnêtement,
ils ont fait le casse du siècle.
Mais il y a un relâchement. Forcément, parce qu'ils vont faire
moins bien. Hier soir, il devait manquer trois joueurs par rapport à l'équipe.
Mais c'est moins bien.
C'est les mêmes en moins bien. Et le coach, c'est un peu le même en moins bien. C'est-à-dire que Gourvenec, il est arrivé, il y avait une paire de chaussons là en 44. Il dit bon, moi je suis du 43, c'est un peu grand, mais je rentre dedans. Il s'est mis dans les chaussons de Galtier. Oui, mais... Et pour l'instant, il apporte rien.
Et attendez, attendez, là, ils n'ont pas fait encore deux matchs par semaine. Mais donc, quand ils vont commencer à faire deux matchs par semaine, ils n'ont pas l'effectif.
Et Christophe Galtier, moi, je l'ai vu en Ligue des Champions. Je sais pas vous, mais moi ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Hein.
Non, on est d'accord, effectivement.
Mais vous l'avez vu, non vous avez
Sébastien,
vu,
mais... au niveau comptable, oui, mais ils ont fait des bons matchs.
C'était pas non plus l'effectif qui te permettait de pouvoir escompter beaucoup plus. On a vu quelques choses
ils ont fait
plus
des bons
intéressantes
matchs,
en Ligue Europa.
Mais c'est valable aujourd'hui
notamment.
Aussi.
Mais effectivement, on sait qui est venu. On a parlé d'un moment de Laurent Blanc, puis après c'était Ranieri. Bon, ça a fini avec Gourvenec, mais il y avait aussi...
Alors, si j'avais été méchant, j'aurais posé la question suivante. Gourvenec, entraîneur du LOSC, par défaut?
Mais il y avait aussi une situation budgétaire, qu'est-ce qu'elle est? Une enveloppe avec un staff qui n'était peut-être pas, qui permettait pas non plus de viser beaucoup plus haut.
Ah oui, parce qu'il y avait aussi un président de génie qui s'appelle Gérard Lopez, et que d'ailleurs, Christophe Galtier lui rend hommage de manière systématique, mais il a laissé 160 millions de dettes. Donc à un moment, forcément, ça a un impact sur l'avenir.
Oui, ça a un impact.
Donc Lille? Il faut laisser du temps. Non, mais on laisse du temps à Jason Gourvenec.
Honnêtement, qui ferait mieux? Très sincèrement, hein, on l'a dit aujourd'hui, qui ferait mieux que Gourvenec? On va lui laisser du temps parce que de toute façon, il vient d'arriver, il n'a pas commencé la Ligue des Champions, on ne va pas le condamner. Mais oui, forcément, Lille va faire une moins bonne saison que l'année dernière.
Voir et avec la Ligue des Champions,
ça va être très compliqué. Il y a quand même de très fortes probabilités pour que la saison soit terrible.
Et quand même, quand on reprend le match d'hier et que vous entendez Fonté hier sur sa déclaration d'après-match, où il est extrêmement remonté sur le comportement des joueurs.
C'est surtout ça, le comportement des joueurs.
Mais ça dit quelque chose aussi de la relation. J'insiste encore là-dessus, de la relation, en tout cas de ce qu'aujourd'hui Gourvenec arrive à tirer de ses joueurs, là où on sait que Galtier, la saison passée, avait tiré.
Mais la saison passée, encore une fois, les matchs ont basculé parfois d'un rien parce que
oui, mais tu ne peux pas leur retirer comme leur saison extraordinaire.
Mais je ne leur retire pas.
Oui,
je
suis en train de te dire que. Ça pouvait pas basculer.
Oui, mais je suis en train de te dire qu'il y avait une énergie, ils étaient portés par un élan.
L'alignement des étoiles.
Mais en fait.
Mais donc Christophe Galtier était quand même responsable.
Mais bien entendu. Mais je te dis que, selon moi, ce ne serait pas mieux avec Galtier aujourd'hui. Parce qu'à un moment, quand tu as surperformé comme cela, en fait, à un moment, tu es rattrapé par ton niveau, qui est déjà très correct, mais tu es rattrapé par ton niveau. Là, ils étaient portés par... C'était la ligne d'arrivée, tu vois. T'es
cumouillé,
mais tu continues à courir pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée.
C'est une des raisons pour lesquelles il est parti. Tu parlais de la situation financière, mais il est parti parce qu'il le savait. Il est allé au top du top, il ne peut pas en tirer plus. C'est impossible.
Galtier, c'est terminé, c'était plus l'entraîneur. C'est Gourvenec. Moi, ce qui me gêne quand on a affaire à un entraîneur qui vous avance comme principale raison, il a manqué d'un supplément d'âme. Ce n'est pas un supplément d'âme qui fait qu'il y a pas, il y a beaucoup moins d'intensité dans le jeu, qu'il y a des marquages qui sont très lâches, qui a une faiblesse offensive assez criante. C'est ça le supplément d'âme.
Mais pour
c'est l'explication d'un entraîneur sur le plan technique.
Il se trouve qu'hier, j'étais à 2 mètres du terrain, il n'a pas arrêté justement de ramener son équipe pour faire tous ces ajustements dont vous parlez, ramener ses joueurs, etc. À un moment, les entraîneurs, ils peuvent avoir le discours qu'ils veulent. Si les joueurs ne suivent pas, c'est plus la faute de l'entraîneur. À un moment, il faut aussi charger les joueurs.
Le compte @RTL Foot, Baptiste Durieux, les supporters du LOSC sont connectés avec On Refait le Match.
Absolument, et assez défaitiste, hein, les supporters du LOSC, à l'image de Bastien qui nous dit Lille joue le maintien, je persiste et je signe. Point final, effectif encore compétitif, mais perdu et complètement démotivé. Gueule de bois du titre couplé au départ de Galtier, c'est trop pour ce club. Et Gourvenec, pas envie de tirer sur une ambulance, mais j'en attends rien si ce n'est faire acte de présence sur le banc, c'est assez dur. Et message de Simon avec un poil d'ironie évidemment, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Simon qui nous dit la question qui me taraude autour du LOSC, c'est Rudy Garcia arrivera-t-il avant ou après la trêve hivernale, pardon.
C'est pas très bienveillant effectivement, un terme qualificatif.
Il recherche un club avec des champions quand même.
Rudy Garcia. Je vais vous poser une question bienveillante, mais ce sera juste derrière la publicité.
Très bien.
À tout de suite, si on fait le match à 19h29.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Ah, il y a de l'actualité, il y a du débat et ce n'est pas terminé. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Et il y a de la Ligue 2, bien évidemment, Baptiste Durieux.
Absolument, dédicace à Sébastien Tarrago, évidemment.
Spécialiste.
8 matchs lors de cette 7e journée. Déjà, la victoire de Guingamp face au Paris FC, 1-0. Et ça joue depuis environ 30 minutes de jeu, donc sur toutes les pelouses. 1-0 pour Valenciennes face à Quevilly, Rouen, 0-0 entre Dunkerque et Nancy, entre Amiens et Rodez, entre Dijon et Bastia. 1-0 pour Nîmes sur la pelouse de Grenoble, Caen qui mène face à Pau sur le score d'un but à 0, et puis 0-0 entre la Ajaccio et Sochaux, et 1-0 pour Auxerre face à Niort.
Merci Baptiste. RTL Foot, la suite de la Ligue 2 à partir de 20h, bien évidemment. J'ai vu une belle équipe guingampaise chez nos amis de Bein cet après-midi. J'ai vu une belle équipe lorientaise, de ma question bienveillante, chez nos amis de Prime Vidéo, c'était hier soir. Parce qu'on parle évidemment toujours des trains qui n'arrivent jamais à l'heure, on parle toujours des grosses équipes, on nous le reproche, mais un mot tout de même, messieurs, sur cette équipe, à part mon conduit, j'allais dire, il n'y a pas de star. C'est pas une star, mon conduit, mais enfin, c'est peut-être le régulateur, le patron de cette équipe.
L'orienté, c'est bon aussi.
Mofi, ça commence Mofi, à Mofi. Sur l'action du premier but. Je pense qu'il a quand même tapé dans l'œil. On glissait hier en rigolant du côté l'orienté qu'il valait mieux qu'il n'ait pas eu ce genre de match vers le 28 ou le 29 août, parce qu'ils auraient peut-être eu des difficultés à le conserver en fin de mercato. Donc il y a quand même des joueurs qui se montent, quoi.
État d'esprit, fraîcheur, c'est la patte.
Bien sûr, et puis c'est dans la continuité aussi de la saison dernière où ils ont connu des difficultés. Il est resté là, il est resté fidèle à ses idées. Donc non, c'est cohérent, mais comme Lorient, comme Angers qui fait un bon début de saison aussi, comme Lens aussi qui continue bien. Donc oui, c'est intéressant pour cette Ligue 1.
Bah, bravo à Lorient, bravo à Guingamp, l'équipe de football breton notamment est en forme. Qui voulait ajouter quelque chose sur. Non ? Bon, on passe aux incidents et aux sanctions Nice-Marseille. Alors. Pour tous ceux qui se reviendraient de mars, je rappelle que Nice a 3 matchs à huis clos à disputer, surtout son match contre Marseille à rejouer sur terrain neutre à huis clos également. 2 points de pénalité, dont un avec sursis. Je rappelle que côté Marseille, le préparateur physique Pablo Fernandez est lui suspendu jusqu'à la fin de la saison, sauf pour préparer ses joueurs à la commanderie. 2 matchs de suspension pour Alvaro González et un match de sursis pour Dimitri Payet. Alors, juste, proportionné, injuste, scandaleuse, jugement de Salomon, les joueurs trinquent, qu'est-ce que c'est normal, qui veut prendre la parole?
Moi, je pense que c'est un naufrage.
Philippe Sanfourche.
Parce que, en fait, le football français avait un rendez-vous un peu avec l'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas, avait l'occasion de se regarder un peu dans les yeux et d'essayer, un tant soit peu, d'effacer cette image dramatique qui a été véhiculée dans le monde entier, parce que quand vous parlez avec des journalistes, même au-delà du cadre de l'Europe, en Amérique du Sud, partout, c'est des images qui ont circulé. On a vu ce qui s'est passé, qui n'est pas anodin. Et on se retrouve avec un jugement où, au final, on va rejouer le match. Où Nice, s'ils gagnent le match, finalement, ils auront perdu un point. Marseille peut gagner un match qu'ils étaient en train de perdre, auquel les circonstances étaient particulières, mais qu'ils ont quand même sciemment décidé de ne pas finir, alors que, à la fois, le préfet et l'arbitre demandait de le reprendre. Donc au final, tous les règlements sont bafoués, la morale est bafouée, l'image est souillée, et on en ressort avec un jugement qui est...
Quel était le bon jugement ?
Qui est totalement neutre.
Il n'y avait pas de bon jugement, à mon avis, déjà ne pas rejouer
le match, pour commencer. C'est-à-dire que déjà mettre le doigt sur voilà, ce qui s'est passé là,
match perdu.
Match qui n'existe pas, donc 0 point pour tout le monde. Et après...
Tu gelais le match.
Et après, donc déjà, ça c'était... on va dire par rapport à la logique sportive, c'est-à-dire que personne ne puisse prendre des points dans cette situation, parce que tout le monde est passé au travers et tout le monde est responsable.
Bah, c'est un peu contrariant pour les Marseillais, quand même.
Ouais, honnêtement, en quoi je vois pas Philippe, ça, en quoi les Marseillais finalement
autant les Niçois sont pas responsables du comportement de leurs propres supporters.
Si, bah, ils doivent le gérer, bien sûr.
Non,
que
non,
si.
Je parle totalement. Des footballeurs, je parle du jeu, je parle du sport, je parle des joueurs. Autant ils ne sont pas responsables, autant les Marseillais le sont encore moins.
Mais si on tape pas sur le club et si on tape pas sur le sportif, on peut pas aller loin. Finalement, on peut pas avoir une incidence sur ce qui se passe. Donc, si on veut responsabiliser le club niçois, ses dirigeants, sur le fait de faire sortir du stade certaines personnes qui sont acceptées, voire même encourager, j'irai pas jusque là.
On peut pas dire ça comme ça.
On ferme les yeux sur bien des choses.
Une forme de tolérance.
Et c'est pas qu'à Nice, hein. Attention, il y a des clubs, il y a même des clubs en France où certains dirigeants qui sont en guerre les uns contre les autres organisent les mouvements de supporters de telle manière que ça puisse nuire à son petit voisin. Donc ceux qui connaissent le truc sauront de quoi je parle. Mais juste pour terminer, les Marseillais.
Bah, pas les gens. J'avoue que je.
Bah, il y a des clubs où oui.
On fait tourner la parole, Philippe.
Oui, non, mais juste un truc sur les Marseillais.
Un tout petit truc.
Oui, bah non, mais un truc qui est pas.
Vous lui donnez pas de chronique aussi sur
un truc qui est pas.
Ça va.
Moi, je rappelle que Rongier, il prend une bouteille en pleine poire à Montpellier. Il a la lèvre ouverte. Le match est arrêté, pas sur le moment, mais 5 minutes
oui,
après, parce qu'il y a des jets de bouteilles.
Bon, d'accord. Bah,
voilà, il reste 5-10 minutes.
Mais, ça a été
mais la différence, quand même, c'est qu'à ce moment-là, bah, Marseille, il menait. Ah, bah, c'est bizarre.
Non,
Philippe, la différence. Personne rentre sur le terrain.
Personne n'est rentré sur le terrain, Philippe. Et la différence, c'est que ça a été mieux géré avec la sécurité, le délégué et les appels au calme à Montpellier que ça a été géré à Nice. David Aiello.
Juste d'abord sur ce que vient de dire Philippe sur la fin, je pense qu'on peut pas occulter le fait que le résultat du match a eu un impact sur l'attitude. Je veux dire, c'est
ça ah quand paraît, même. Ça paraît, j'entends ça pas paraît. Beaucoup de gens le dire. Je suis un peu
ça paraît évident. Je veux dire, ça paraît évident.
Bon, donc vous pensez que Marseille mène 1-0 à Nice, ils reviennent sur le terrain.
Bien sûr qu'ils reviennent.
Bah, on peut pas le savoir, mais on peut le supposer.
Non, je sais pas. Je pose la question. Je pose la question. D'accord.
Pour moi, oui.
Donc quand tu vois les supporters descendre sur le terrain,
bien sûr qu'ils reviennent.
Donc tu reviens. D'accord.
Et même à 3-0,
les supporters sur ce coup-là, ils sont abrutis, mais qui les appelle à descendre? Parce qu'il faut aussi dire les choses telles qu'elles se sont passées.
Non, mais attends.
Qui provoque sciemment les supporters?
Donc c'est à cause de Payet que les supporters sont descendus?
C'est l'effet déclencheur. C'est le fait que Payet reprend la bouteille une deuxième fois, la relance et invite ses coéquipiers les plus motivés, c'est-à-dire Alvaro. Et Guendouzi,
l'ambiance était comme ça dès le début.
Dans
Philippe.
Un geste de mais provocation.
Mais
c'est ça.
Ceci dit, il faut vraiment que la parole tourne.
Moi, il y a deux trucs qui me dérangent dans cette décision, c'est que ça entérine le fait que finalement, à l'avenir, si tu t'arranges pour que tes supporters envahissent le terrain, ça peut t'arranger, faire rejouer un match.
Ça
crée un précédent un peu dangereux. Et moi, j'ai un gros souci avec cette décision, c'est qu'une nouvelle fois, on parle pas de l'arbitre. Moi, je suis désolé, mais l'arbitre, lui aussi, moi, j'attends des sanctions. Les jets de bouteille, c'était depuis le début du match. Pourquoi les doigts d'honneur de Alvaro Gondès, c'était depuis le début du match? Pourquoi est-ce que le délégué ou l'arbitre n'interrompt pas cette partie bien avant?
D'où une gestion mieux maîtrisée à Montpellier, parce que tu faisais allusion à Montpellier, Philippe, que la gestion à Nice. Sébastien Tarrago.
Non, moi, je suis juste gêné quand j'entends Philippe, même si je comprends qu'on puisse dire que l'effet déclencheur, c'est le fait que Dimitri Payet ait lancé des bouteilles dans le public. C'est un fait. Mais ça me gêne d'entendre ça, ce qui sous-entend que la responsabilité est partagée entre les supporters et les joueurs de l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas d'accord avec ça. La violence, elle est venue des supporters. C'est eux qui se comportent de manière scandaleuse à la base, et c'est eux qui doivent être sanctionnés. Donc j'entends ce que vous dites, moi je sais pas quelle était la meilleure des solutions, celle de Philippe est pas mal, mais moi ce que je regrette, c'est que les pouvoirs publics, encore une fois, ne s'emparent pas du sujet, que tous les gens qui sont rentrés sur le terrain, quelles que soient les raisons, quels que soient les éléments déclencheurs, devraient être interdits de stade pour 5 à 10 ans, que ça devrait être radical.
Alors, il y a des enquêtes, hein,
parce
qu'ils en seront peut-être.
Oui, ils ne le seront pas tous, c'est très bien, Philippe. Moi, je pense que ça devrait être tous, parce que c'est sanctuarisé. L'espace où sont les joueurs de football et les ramasseurs de balles, les caméramans, tout ce que vous voulez, doit être sanctuarisé. Et toute personne qui rentre sur ce terrain, avec en plus l'envie de violence, je ne dis pas ça pour les gens qui traversent tout nu le terrain, devraient être sanctionnés de manière radicale. En Angleterre, ils ont pris des décisions radicales, mais ils ont attendu un drame. Et le jour où il y aura un drame, les pouvoirs publics, les ministres, tout ce que vous voulez, les gouvernements successifs seront les responsables de ce drame.
D'où le communiqué de Radcliffe, le propriétaire Ineos de la formation GSC Nice. Il faut quand même le rappeler, un extrait. Le 22 août, nous avons dépassé une limite qui ne doit plus jamais être franchie. C'est lui qui le dit. Nous avons été sanctionnés pour notre comportement justement et à juste titre.
D'accord. Et Julien Fournier, pour aller dans le sens de la prolongation du communiqué de Nice, a également rappelé qu'il fallait arrêter avec les sanctions collectives. Et ça va dans le sens de ce que tu dis, Seb. À un moment, les responsables, les principaux responsables, ce sont les supporters. Pourquoi est-ce que cette tribune, puisque là, on a fermé le stade à huis clos de façon générale, les trois quarts des tribunes, même 90% du stade, n'avaient rien à voir avec ce comportement. Il faut cibler les comportements et les sanctions. Donc là, il fallait peut-être mettre 10 matchs de fermeture pour cette tribune. Effectivement, tu l'as dit, les supporters qu'on a identifiés, il faut les interdire de stade pour longtemps et arrêter avec les sanctions collectives, arrêter avec les sanctions auprès des joueurs. Pourquoi est-ce que les joueurs de Nice sont pénalisés? C'est un non-sens.
Ah oui, bah vous posez des questions, mais vous ne donnez pas les réponses.
Mais si on donne
les
réponses.
Page de publicité, derrière la publicité, l'équipe de France, le bouquin de Baptiste Després, journaliste au Figaro, du Mondial à l'Euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous raté. À tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Le dernier quart d'heure dont fait le match consacré à l'équipe de France. Bilan d'ailleurs, séquence équipe de France qui s'est terminée par des Bleus qui ont 12 points au compteur. L'Ukraine et la Finlande 5 points, le Kazakhstan 3 points. Et ma foi, hein, c'est comme tout bon journaliste que nous sommes. C'est-à-dire que dès que l'équipe de France joue un peu moins bien, eh bien c'est un bashing équipe de France. Là, elle a joué un peu mieux, mais ça y est, tout est reparti. Alors qu'il faut garder, de mon point de vue, un peu de nuance. Je montre le bouquin de Baptiste Després aux caméras dont refait le match, du Mondial à l'Euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous raté. 317 pages, 62 petits chapitres, comme des nouvelles, mais là ce sont de vraies histoires. C'est une sorte de carnet de route, Baptiste, qui nous rafraîchit un peu la mémoire, qui va donc de la Coupe du Monde au fiasco de l'Euro. La plume est alerte. Un bouquin très intéressant, vraiment bravo.
Merci.
Et j'ai choisi quelques thèmes. On peut en débattre avec nos
plaisir.
Amis ici. Un thème qui concerne... Alors j'ai l'impression que, non pas la mauvaise ambiance, mais une ambiance qui s'est peut-être un petit peu dégradée, eh bien ça a démarré en décembre 2018, après la Coupe du Monde, quand chacun tirait la couverture à soi pour être le ballon d'or. Il y avait 5 Français parmi les 15 désignés, et là, chacun pensait à soi, mais pensait pas aux petits copains.
En tout cas, je sais pas si l'ambiance s'est véritablement dégradée à ce moment-là, mais en tout cas, il y a un joueur qui a eu du mal à s'en remettre, qui s'en est remis finalement au fil des années, au fil du temps, mais c'est Antoine Griezmann. Parce qu'il aurait voulu, il aurait réclamé de la part notamment des cadres de l'équipe de France, dont il faisait partie, et surtout du sélectionneur un appui tranché. Et on sait qu'après la Coupe du Monde, c'était difficile de dire non, je suis plus pour Kylian Mbappé, plus pour Varane, l'un ou l'autre, ou Antoine Griezmann, et j'en passe. Et donc ça, ça a été une petite séquence, et qui aujourd'hui fait un peu écho quand on voit ce qui s'est passé à l'Euro avec les tireurs de coups francs, de pénalty, etc. C'était assez drôle à raconter parce que c'était il y a à peine 3 ans en arrière.
Et cette année-là, c'est Modric qui a été ballon d'or.
Mais là où Baptiste a complètement raison, et d'ailleurs, ce qu'il évoque, c'est le moment où ça commence à se voir. Parce que ça n'est pas du jour au lendemain, ça. C'est-à-dire que pendant même la Coupe du Monde 2018, il y avait déjà les prémices de tout ce qui allait devenir guerre des égos et bataille de personnalité. De toute façon,
non, mais il y a déjà eu, il y a déjà eu pendant la Coupe du Monde,
oui, bien sûr,
très gros problèmes.
Il y a un missile,
de très gros problèmes,
bien sûr,
avec entre eux, et notamment dans la relation Kylian Mbappé Antoine Griezmann.
Il y a une étoile filante, un missile qui est arrivé du cosmos qui s'appelle Kylian Mbappé et qui est venu à la fois bonifié et un petit peu comme ce qu'on a dépeint avec le retour de Karim Benzema. C'est-à-dire qu'il y a des équilibres qui, d'un seul coup, sont rompus. Et Deschamps, il a mis en place quelque chose qui a failli aller au bout déjà à l'Euro 2016, qui ensuite est monté encore en puissance pour 2018, sauf qu'entre-temps, il y a un gamin stratosphérique qui est arrivé et certains l'ont vécu plus ou moins bien, à juste ou pas juste titre, peu importe, mais en tout cas, ça a rompu les équilibres.
Précisément, dans ce livre aux éditions Hugo Sport, la gestion Mbappé, Didier Deschamps marche sur des œufs. Pas de façon permanente, mais très souvent. Et ça agace certains joueurs.
En tout cas, ça a grandement agacé, durant l'Euro, la gestion de Kylian Mbappé par Didier Deschamps, parce que Kylian Mbappé, au-delà, Philippe l'a dit, sur le côté stratosphérique, grand joueur, etc., etc., ça, il n'y a pas de débat. Mais dans les retours qu'on a, et puis tout le monde le sait, notamment autour de la table, c'est que c'est pas considéré comme étant un très très grand bosseur Kylian Mbappé. Moi, c'est les retours que j'ai eu là-dessus, que effectivement sur un coup de pied, il vous fait une accélération, il vous fait gagner un match, mais au quotidien, il a du mal à bosser, notamment sur ses points faibles. C'est quelque chose qui revient et qui se voit aussi à l'entraînement. Après, il y a son côté caractère, sur le à la fois jovial, bonne humeur,
boudeur.
Mais boudeur, dans le sens où il a quand même que 22 ans et il a du mal à la fois quand le staff de l'équipe de France, Didier Deschamps, je vais pas dire se comporte différemment, mais en tout cas le cajole moins, le câline moins. Et ça, c'est des petites difficultés et des petites choses qu'ont suscité des crispations au sein du vestiaire durant l'Euro. Mais c'est la gestion d'une star.
C'est le vrai souci de Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'il est trop en avance, il arrive trop vite. Et il a Et du coup, on n'accepte pas ces espèces de bouderies de temps en temps, son caractère un peu particulier. C'est difficile à accepter pour ses coéquipiers plus âgés. Mais Kylian Mbappé est Kylian Mbappé. Et s'il est Kylian Mbappé, s'il est stratosphérique, si c'est une comète, c'est aussi parce qu'il a ce caractère. Et il a eu des problèmes avec tous ses entraîneurs. À l'AS Monaco, il avait, au centre de formation, il avait des problèmes avec Bruno Irles. Ensuite,
tiens, l'entraîneur de Guingamp.
Oui, oui. Ensuite, il a eu des problèmes avec Leonardo Jardim, mais c'était chaud. Et c'est comme ça, parce que Sébastien, c'est un caractère à part.
Sébastien, moi ça, je pense que de toute façon, tous les énormes joueurs qui sont censés être Mbappé ont ça, sauf que ça marche quand tu fais gagner ton équipe. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils fassent vraiment gagner les Bleus.
Ouais, ils ont un peu gagné la Coupe du Monde.
Oui, mais ce n'est pas grâce à lui. C'est pas lui qui...
Il a fait partie quand même. Quoi.
Oui, mais enfin, je veux dire... Non mais c'est jamais
grâce à un joueur, hein. Mais je pense que son impact.
Non mais j'ai pas dit je te dis pas qu'il en a pas important. Eu, mais tu peux pas dire qu'aujourd'hui Kylian Mbappé, c'est lui qui fait gagner l'équipe de France à lui tout seul, donc tu peux.
Mais non parce qu'elle perd.
Allez, faut qu'on avance.
Il y a un distinguo à faire quand même.
Faut qu'on avance. Il y a quelque chose qui m'a moins intéressé. C'est Didier Deschamps qui dit: je connais toutes les questions quand je viens en conférence de presse. Je connais toutes les questions, j'ai mes réponses grosso modo. Mais est-ce que c'est pas notre problème justement? Car j'ai envie de souligner qu'on est très très fort ici autour de cette table pour critiquer l'équipe de France, son jeu, pour analyser. Mais il faudrait refaire le match en conférence de presse et venir avec les vraies questions, Baptiste Després.
Revenir avec les vraies questions, c'est-à-dire les questions qui fâchent, questions qui posent problème.
Oui, les questions qui
la question
problème.
Qui fâchait pour Didier Deschamps,
c'est facile pour lui.
Depuis X années, c'était Karim Benzema. Donc à chaque fois qu'on lui posait la question, au tout début, il commençait à faire la tête. À la fin, il répondait avec l'ironie.
Et à la fin,
donc,
on ne posait plus la question.
Et à la fin, on posait plus la question. Donc il avait gagné. Et pendant l'Euro, en tout cas, Philippe était là, mais au tout début de l'Euro, c'était non, mais c'est un événement, on n'en parle pas, etc., etc. Là-dessus, il maîtrise sa communication, mais de façon excellente et jusqu'à son paroxysme.
De moins en moins.
J'étais vraiment sur la séquence Euro et avant.
Bon. Bah, je suis pas le mieux placé parce que il m'arrive de l'interviewer en dehors des conférences de presse et j'essaye de poser d'autres questions. Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Moi j'ai quand même, là on est plus sur la séquence du moment. Moi j'ai senti un glissement depuis quelques temps où j'ai trouvé qu'il était. Peut-être, ça peut être aussi une stratégie hein, dans sa communication, un peu moins percutant, un peu moins fluide, un peu moins à l'aise. Est-ce que ça traduit un mal-être par rapport à d'autres choses qui sont plus importantes que la com et où du coup il était pris par des vrais problèmes de coach et de management? C'est possible aussi. Le fait est qu'il a été, le relais a été pris et sacrément bien pris par Hugo Lloris lors de ce rassemblement. Mais j'ai trouvé que voilà, la com parfaitement maîtrisée de Deschamps était petit peu plus fragilisée.
Il maîtrise moins les choses actuellement. Et sa grande force, ça a été de maîtriser toujours les choses, de savoir tout ce qui se passait, tout ce qui se disait dans les entourages de joueurs, dans les rédactions. Il savait tout, tout le temps. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Parce que c'est impossible.
Quand tu as assis un petit... Mais parce que tu parles de la comète Mbappé, oui, ça compte aussi, parce que c'est un pôle... Avant, c'était l'équipe de Deschamps. C'est tout. C'était l'équipe de Deschamps pendant très longtemps. Et aujourd'hui, il y a des pôles qui sont plus difficiles à gérer pour lui et plus difficiles à maîtriser.
Bon, non, c'est pas terminé.
Oh là là, ils sont pressés. Qu'est-ce qui se passe là?
Dans ce livre signé de Baptiste Després, Didier Deschamps, en revanche, à l'oreille du président de la République, car quand le championnat s'est arrêté, Emmanuel Macron a appelé Noël Le Graët, a appelé Pierre Ferracci, président du Paris FC, dont le fils a été le témoin de mariage du président de la République, mais il a appelé également Didier Deschamps, et j'ai l'impression que le président, vous, à Didier Deschamps, une certaine forme de fascination.
Bah alors, il y a le côté à la fois pour l'Olympique de Marseille et puis capitaine de Marseille, championne d'Europe. Mais c'est vrai que dans les indiscrétions, notamment le président de la République envoie souvent des textos à Didier Deschamps. Par exemple, avant un match de l'équipe de France, avant une grande compétition. Je ne sais pas si c'est par courtoisie, mais en tout cas, il lui voue une certaine admiration. Ça, c'est certain.
Puis, une chose qui m'a beaucoup plu. Alors là, je saute du coq à l'âne, comme dirait l'autre. Le spleen de Griezmann à Barcelone, c'est la sœur de Griezmann qui s'occupe de ses affaires, qui va défendre les intérêts. Elle obtient un rendez-vous, mais elle n'est reçue que par Eric Abidal, car Josep Bartomeu, le président catalan de l'époque,
était absent.
S'est excusé.
S'était porté pâle. Ouais. Donc là, pour le coup, le clan Griezmann était un petit peu agacé d'être reçu comme ça, de cette façon-là. Mais ça dénote aussi les problèmes qu'il y a eu avec Griezmann, avec ses entraîneurs respectifs. Et puis là, on a vu la séquence qui s'est terminée par son départ à l'Atlético Madrid.
Le retour de Benzema, vous dites que Deschamps et Stéphane se sont vus en France, ça c'est confirmé.
Bah, ils sont vus tous les trois. Il n'y avait pas que Didier Deschamps et Karim Benzema. Il y avait aussi une troisième personne, en l'occurrence le fidèle adjoint Guy Stéphane.
Guy Stéphane.
Voilà, donc c'est un livre que je vous recommande vraiment, hein, pas cher en plus, 17,95€, Baptiste Després, du mondial à l'euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous raté aux éditions Hugo Sport. La publicité dans Orphée le match et ensuite les tirs au but avant de retrouver nos amis d'RTL Sport jusqu'à 23h, vous le savez, pour une belle affiche ce soir. Restez avec nous, qui opposera l'AS Monaco à l'Olympique de Marseille.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Allez, les trois dernières minutes, on va dire, d'en fait le match avant RTL Foot, 20h, 23h, les tirs au but, c'est un concept un peu kafkaïen, je pose des questions. Vous attendez le sifflet, le coup de sifflet, évidemment, hein, pour répondre. Voilà, que vous avez entendu pour répondre. Il y a un petit championnat qui s'installe, il y a des points qui sont accordés à ceux qui sont les plus rapides et les plus pertinents. Je rappelle qu'au classement de ce début de championnat, c'est Gilles Vernez qui mène 2 points, Gilles Vernez, François Manardo, 1 point.
Donc, mais c'est un classement au point ou c'est un point par présence? Parce que vous voyez, c'est
mais
un
non,
petit
mais
peu
c'est,
comme
bah, c'est fonction de présence. C'est surtout fonction de vos titularisations.
Ah oui.
Est-ce qu'il peut y avoir des retraits de points s'il y a des jets de
Non, on n'est pas comme ça, Et à la fin de la saison, le vainqueur paye un verre, évidemment. Quoi, parce que
ah, il y a un gros enjeu.
Ça devrait être les perdants.
Je n'ai toujours pas compris.
Hein.
Il faut que vous me fassiez.
Moi-même, je n'ai pas compris.
Ah oui,
je pose des questions.
Changer le jeu, alors.
Le mieux, c'est que vous payez
On ne change jamais les règles du jeu en cours de route. Mais voilà, j'essaie de balayer le reste de l'actualité. D'ailleurs, l'actualité n'est pas toujours drôle, vous allez pouvoir le constater dans un court instant. Mais d'abord, Cristiano Ronaldo, on en a parlé. 2 buts cet après-midi, victoire de United 4-1 contre Newcastle. Alors attention, vous attendez le coup de sifflet. La question est un peu bateau, mais c'est pas grave, parce qu'il faut argumenter.
Mais on peut faire une réponse bateau.
Mais absolument, non, pas de débat. Pas de débat. Vous avez une admiration, évidemment, sans borne pour l'international portugais?
Non.
Ah, Sébastien
Tarragon. Mais là, on est dans le domaine de l'affectif. Je suis admiratif de sa carrière, de son travail, de sa constance. Bravo. Mais il ne me procure rien. C'est comme ça, hein. Et je dis pas, mais moi Messi me procure des choses, Ronaldinho me procurait des choses, Gigi Okocha, puisqu'on parlait du Paris Saint-Germain, me procurait des choses. Oui, mais ça c'est la vie. Mais vous préférez les blondes, les brunes, on s'en sort plus, hein, en fait. Et c'est comme ça. Moi, il me procure. Moi,
j'aime les deux. Hein.
Pourquoi
est-ce qu'il faudrait choisir même les rouges?
Moi, il me procure rien. C'est comme ça. Mais je sais qu'il faut pas le dire.
Allez.
Il est quand même à tous les rendez-vous. Quoi, ce
mais oui, bien sûr.
Allez, un point pour François Malardo. Pour Sébastien Tarragon, évidemment.
Alors, donnez-le, là, donnez-le à François.
C'est moins drôle, les amis, mais je suis obligé. Ça fait partie de l'actualité, donc il me faut un avis pertinent, mais c'est moins drôle. C'est beaucoup moins drôle. Jérôme Boateng, champion du monde allemand, principal recrue de Lyon, vient d'être condamné à 1 800 000 € par la justice allemande pour violence conjugale. Est-ce que la situation sportivement est tenable pour l'Olympique lyonnais?
Personne n'y va. Bon,
oui, elle
est tenable s'il n'est pas condamné à la prison, parce que je crois qu'il peut encore y avoir un appel, mais parce que le parquet réclamait de la prison. Donc, si le parquet fait appel, l'histoire n'est pas terminée. Moi, ce qui m'inquiète, parce que là, on peut pas juger des événements sans les connaître totalement. Et ce qui m'inquiète, c'est que l'Olympique Lyonnais, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, n'étaient pas au courant de cette procédure. Et ça. Dans un club comme l'Olympique Lyonnais, on se doit d'être au courant de ce genre de choses avant de recruter un joueur. Visiblement, ils sont tombés de leur chaise et c'est quand même un gros souci par rapport à une organisation dont on sait qu'elle a quelques failles en ce moment.
Ça s'est fait à l'arrache, on sait Boateng, on sait qu'il devait aller à Séville et au dernier moment, comme il n'y est pas allé. Oui, d'accord.
Réponse très pertinente et deuxième point pour Sébastien Tarragon.
Je veux certainement pas gagner.
Une dernière question vite fait, parce que là, il faut essayer.
Petite bouteille de champagne.
Essayez de réduire l'écart, comme on dit. Franck Ribéry, 38 ans, dans le club de Salernitana, promu en Serie A. 38 ans. Chapeau l'artiste ou pas?
Bien sûr, chapeau l'artiste. Bien sûr.
Ça y va. Là, quand c'est Totti, il n'y a personne. Ribéry, 45 ans.
Mais vous l'avez dit finalement dans l'énoncé, 38 ans. Il aurait pu. C'est ce qu'il a dit. Il aurait pu partir au Qatar, il aurait pas pu partir au golf, etc. Oui, c'est fabuleux. Il arrive chez un promu. On a envie de le voir jouer. Je ne sais pas combien de matchs, mais en tout cas, oui, c'est une très très belle histoire.
Merci messieurs. 2 points pour Sébastien Tarragon ce soir. Un point pour Baptiste Després.
Je vais prendre une Suze.
Merci Sébastien. Merci Florian. Merci David. Merci Baptiste.
Merci Christian.
Merci Philippe. Merci à vous tous qui nous écoutez bien évidemment et restez surtout avec nous 20h-23h RTL Foot avec notamment mais pas seulement l'intégralité de Monaco-Marseille. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao ciao.
RTL, on refait le match.